L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louad, je suis journaliste, correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Renaud Bouchard, économiste à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Avec lui, nous analyserons les causes du retour de l'inflation aux États-Unis et en Europe. Nous nous pencherons aussi sur le décollage des prix de l'or et de l'argent et leur lien avec la situation géopolitique. À tout de suite sur les ondes de Radio Spoutnik Afrique. Comme l'avaient annoncé plusieurs analystes de marchés financiers il y a quelques mois, le prix de l'once d'or a dépassé les 2350 dollars le 9 avril, enregistrant un record historique après une série de hausses sans précédent. Les mêmes spécialistes prévoient une tendance à la hausse qui va se maintenir dans les prochaines semaines. En effet, selon eux, le prix du métal jaune dans les mois à venir s'annonce spectaculaire. La combinaison de facteurs techniques et fondamentaux relatifs à la situation économique mondiale pourrait facilement propulser l'or bien au-dessus de 3000 dollars l'once et l'argent vers de nouveaux sommets supérieurs à 50 dollars. Dans ce contexte, la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, la Fed, devrait annoncer le soir du 1er mai, pourrait déclencher une dynamique haussière vertigineuse pour l'or, le pétrole, l'argent et tous les métaux rares utilisés dans les hautes technologies. En effet, en début de l'année 2024, la masse monétaire M2 s'élevait à 20 921 milliards de dollars. Au cours de l'année 2024, près de 10 000 milliards de dollars de bons du Trésor arriveront à échéance, ce qui représente près de 30% de la dette des États-Unis. Le gouvernement américain enregistre un déficit trimestriel de 1000 milliards de dollars. Par conséquent, d'ici la fin de 2024, la Fed est tenue de mettre sur les marchés près de 13 000 milliards de dollars, entraînant une augmentation de la masse monétaire à des niveaux historiques. Dans cette situation, il n'est pas difficile de prévoir une chute de la valeur du dollar exprimée en once d'or, entraînant l'effondrement du pouvoir d'achat de la monnaie qui se répercutera notamment sur le prix du baril de pétrole, mais de manière plus générale sur toutes les autres catégories de matières premières. Dans ce contexte, il est très utile de rappeler que le montant de la dette américaine, souvent cité par les analystes géopolitiques et géoéconomiques, est celui de la dette fédérale des États-Unis, soit près de 35 000 milliards de dollars actuellement. Or, ce montant ne constitue en réalité que près de 30% de la dette globale des États-Unis, qui fait d'eux le pays le plus endetté au monde. Ainsi, au moment où l'on parle, la dette globale des États-Unis atteint la somme astronomique de près de 100 000 milliards de dollars. Or, contre toute attente, ce chiffre qui donne le tournis n'a pas empêché le Congrès américain de voter une nouvelle aide militaire groupée de 95 milliards de dollars, essentiellement pour l'Ukraine, qui reçoit 61 milliards de dollars, Israël 13 milliards de dollars et Taïwan 8 milliards de dollars. De cette manière, Washington fait encore une fois le choix de la guerre au détriment des intérêts nationaux, aussi bien américains que ceux de leurs alliés, notamment européens. Par ailleurs, la même situation d'endettement touche la majorité des pays occidentaux, notamment européens. À titre d'exemple, depuis le début des années 2000, la dette publique totale française, en tenant compte de la partie hors bilan, a connu une très forte croissance, passant d'un peu plus de 2 000 milliards d'euros à plus de 6 500 milliards d'euros, soit près de 250% du PIB qui s'est établi à 2 639 milliards d'euros à la fin 2023. Et le tout pour une dette publique de 3 101,2 milliards d'euros. Ainsi, jusqu'où ira cette folie de la dette aux États-Unis et dans le reste du monde, notamment en Europe? Et à quoi doit-on se préparer dans les mois à venir, étant donné que l'inflation repart à la hausse alors que la croissance reste faible? Comment expliquer la flambée du prix de l'or et des autres métaux rares? À quoi s'attendre sur le plan géopolitique mondial? Pourquoi arrive-t-on toujours, comme d'ailleurs s'interroge l'ensemble des citoyens du monde, à trouver l'argent avec une facilité déconcertante quand il s'agit de financer la guerre, mais jamais ou très peu pour redresser l'économie, les infrastructures, l'école, l'hôpital et le laboratoire de recherche. Ainsi, pour parler de tous ces enjeux majeurs pour le futur proche de l'économie et de la paix dans le monde, j'ai le plaisir de recevoir Renaud Bouchard, économiste à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Renaud Bouchard, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Ben, cher Kamal, bonjour. Chers auditeurs, bonjour aussi. Je suis à votre écoute et très sensible aux questions que je vais essayer de prendre en considération pour vous donner une réponse dans la mesure du possible, le plus précise qui soit.
D'accord. Ben, on vous remercie et tout le plaisir est pour nous. Alors, à partir du descriptif que je viens de... Bien sûr, je parle sur votre contrôle, Monsieur Bouchard. Vous pouvez corriger des choses ou rajouter ou enlever. Alors, je poserai la question directement à partir de ce bilan en rappelant un fait. Alors, le 15 août 1971, lorsque le président des États-Unis à l'époque, Richard Nixon, décida de tuer les accords de Bretton Woods en découplant l'or du dollar, une once de 31,1 grammes du métal jaune valait $35 avant d'atteindre les $280 en janvier 2000. Et puis, de 2000 à 2024, le prix passait à $2350 le 9 avril 2024, soit une augmentation de 66 fois, c'est-à-dire 6600%. Alors, Renaud Bouchard, si l'inflation est maîtrisée aux États-Unis ou en Europe, comme s'en félicite la Fed et la BCE, pourquoi dans ce cas, le prix de l'or n'arrête pas de flamber? Et puis, devrait-on saluer la remarquable ascension du prix de l'or ou plutôt considérer l'effondrement de la valeur du dollar? Et puis, enfin, croyez-vous au scénario de la baisse des taux d'intérêt annoncé par la Fed et la BCE?
Je vais commencer par répondre en fait à votre question en prenant la dernière indication. Sur la baisse des taux d'intérêt eux-mêmes, en fait, je suis d'une extrême prudence parce que, en fait, je ne crois à rien. Je regarde des indicateurs qui sont donnés, ceux que vous avez très justement traduits, des chiffres qui sont extrêmement vertigineux et qui me montrent tout simplement une chose au regard, par exemple, une augmentation de masse monétaire, au regard de ces sommes d'argent absolument gigantesques qui sont mobilisées par le Congrès des États-Unis, j'en arriverai en fait à une conclusion très simple. Tout ceci est totalement artificieux, et c'est de l'argent qui n'existe pas. On voit très exactement le suivi d'une économie qui s'est totalement emballée et qui a quitté des fondamentaux et une réalité qui a échappé à tout le monde. Mmh. En fait, si vous prenez les indications données par un autre économiste qui s'appelle Howell, vous voyez plusieurs points. C'est que la liquidité mondiale, par exemple, continue d'augmenter. Elle a augmenté de 917 milliards de dollars la semaine dernière pour atteindre 171,93 milliards de dollars. C'est en fait une augmentation de base monétaire qui est en fait une augmentation fantôme, qu'on appelle une augmentation shadow. Et la valeur des garanties, des collatéraux sont à l'origine de cette hausse.
Quand vous dites que c'était virtuel, vous faites référence justement à l'équivalent physique et réel de cette augmentation de la masse monétaire. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la masse monétaire, mais il n'y a pas de production qui donne de la valeur à la monnaie qui est injectée.
Exactement. D'accord. On en est là, c'est-à-dire qu'en fait, la richesse est totalement artificieuse. Mmh. Elle est artificielle. Elle ne résulte pas de la production de machines, d'intelligence, d'une certaine manière, si, dans un autre domaine sur lequel on va arriver tout à l'heure, qui est tout simplement la mobilisation de ces gigantesques masses monétaires pour relancer, par exemple, une économie de l'armement. Mais c'est un peu particulier. Mais en ce qui concerne, j'allais dire, les sous-jacents de l'inflation telle qu'on peut la connaître actuellement, eh bien, vous avez... les gens qui travaillent, qui produisent, les agriculteurs, l'industrie. Mmh. L'industrie en Europe est morte. L'agriculture ne va pas très bien. Il y a simplement une autre partie du monde, elle, qui produit de véritables richesses et qui sont assises avec un véritable collatéral très solide, qui est précisément l'or. Mmh. Voilà. Là, on est sur quelque chose de sérieux.
Alors, la question, juste pour que les gens comprennent, parce que quand on leur ressasse le discours que les prix ont augmenté, il y a un problème. Donc moi, je voulais que vous nous disiez, est-ce que c'est le prix de l'or qui a augmenté Alors que l'or, on sait que ça fait depuis des millénaires qu'il existe dans l'économie. Je suis pas très sûr que la valeur de l'or varie avec un tel gap à chaque fois. Ou c'est le dollar ou les monnaies donc qui lui sont adossées qui sont en train de dégringoler par rapport à ce que vous venez d'expliquer, parce qu'il y a énormément d'argent.
Ce sont les monnaies et c'est le dollar qui dégringole. L'or, lui, ne bouge pas d'une certaine manière. Vous savez, l'or, ceci d'intelligent et d'amusant, c'est qu'en fait, il ne rapporte rien.
Voilà. Absolument. C'est juste une assurance.
Il ne fait pas de dividendes comme des actions. Il n'offre pas de gains qui soient liés à la hausse des taux d'intérêt. Pour une raison très simple, c'est que le métal jaune n'y est pas soumis. Mais il reste simplement une valeur refuge. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas de la dette. Et à la différence de pas mal d'autres choses, comme il ne peut pas faire faillite comme une entreprise, par exemple. Et sur la création de richesses, sur le gap inflationniste, sur le décrochage qu'il peut y avoir entre une monnaie telle que le dollar et puis la cotation de l'or elle-même, vous voyez une chose, c'est que ce sont des pays qui exportent beaucoup de matières premières, par exemple vers les États occidentaux, qui en ont besoin pour leur industrie, le pétrole, le gaz, les terres rares pour fabriquer des semi-conducteurs. Ce sont des banques centrales de ces pays tels que la Chine, la Russie, l'Inde, l'Afrique, la Turquie, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, qui, elles, veulent sécuriser au maximum les immenses bénéfices qui sont tirés de leurs exportations. Et alors, avec tous ces fleuves d'argent qui sont tirés de ces ventes à l'étranger, voilà des pays qui ont l'intelligence d'acheter de l'or sécurisé, ce qui leur permet de s'affranchir d'une monnaie artificielle qui ne vaut plus rien du tout, qui est la dépendance au dollar.
D'accord.
On assiste à l'apparition de deux mondes totalement différents, avec une cotation d'or, mais qui n'a pas fini de grimper.
D'accord. Pour aller maintenant vers la deuxième question, Renaud Bouchard. Alors, malgré son accalmie ces dernières semaines, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit, et puis j'aimerais avoir votre avis sur ça, l'inflation demeure à un niveau quand même significatif, supérieur à celui de la période de COVID-19. Et à ceci s'ajoute le déficit budgétaire astronomique des États-Unis, ainsi que de plusieurs pays européens, dont la France, qui pourrait obliger la Fed et la BCE à renoncer à la planche à billets. Donc, par conséquent, si ça venait à se concrétiser, l'inflation risque de repartir à des taux très élevés. Les pays occidentaux ont connu donc une situation similaire dans les années 70 avec les deux chocs pétroliers de 73-74 et 78-80, quand l'inflation est repartie à la hausse avec un pic à 13,5% aux États-Unis. Et à cette époque-là, le directeur de la Fed à l'époque, Paul Volcker, a été contraint d'augmenter le taux directeur à 20% afin de réduire l'inflation de manière significative. Ma question, Renaud Bouchard, pensez-vous qu'un tel scénario est possible actuellement alors que le taux d'endettement des États et des privés atteint des proportions astronomiques? Et comment allons-nous sortir de cette deuxième vague si elle se produisait?
En sortir, je ne sais pas, mais la vague est là. Vous avez, des pays occidentaux, européens, qui sont en train d'acheter au maximum ce en quoi ils ont soi-disant encore confiance, qui sont en fait du dollar. Et à côté de cela, vous avez une autre politique qui est en train de se mettre en place, qui est de savoir s'il n'y a pas une inquiétude de voir de la part de la Fed, par exemple, une baisse des taux après que la BCE ait entamé le processus. J'ai vu très récemment dans un article qui a été publié, je crois, sur la Tribune, une interrogation où sur la base de l'annonce qui avait été faite par la Réserve fédérale américaine de perspectives de baisse de taux pour 2024 et 2025, l'analyse du discours de Jérôme Powell sur la base d'une inflation qui est toujours très forte aux États-Unis. Alors, on voit des analystes, je n'en fais pas partie, je n'en sais absolument rien là-dessus parce que je n'ai pas ces éléments pour pouvoir me faire une opinion solide. C'est des analystes qui anticipent une baisse des taux beaucoup plus rapide en Europe qu'outre-Atlantique. Et alors, on parle d'une espèce de désynchronisation de politique monétaire qui pourrait, par exemple, impacter la valeur de l'euro face au dollar et bénéficier aux entreprises du vieux continent. Alors, là-dessus, je vais vous dire, je pense, moi, que cette histoire, par exemple, de désynchronisation de taux, c'est une idée qui est apparue comme, que, je veux dire, mais qui est sans fondement. Pourquoi? Parce que l'inflation reste encore trop élevée aux États-Unis, selon Jerome Powell. Elle ne cesse de rebondir. En février, par exemple, loin d'un objectif qui avait été affirmé, par exemple, la croissance devait se maintenir à 2,1% en 2024 selon la Fed, contre 1,4% prévu précédemment. Ce que l'on voit, c'est que l'inflation en zone euro est retombée à 2,6% en février, tandis que on se retrouve, nous, au bord de la récession avec une croissance simplement de 0,8% attendue en 2024. Alors, pour répondre à votre question, je pense qu'on est au bord d'un décrochement. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Il est peut-être déjà commencé, mais c'est un peu comme un morceau de sucre qui s'effrite dans l'eau, là. Je dirais pas les semaines, par confort intellectuel ou autre. Je pense que le processus de dégradation est déjà complètement établi. On est sur une sorte de bascule. Très récemment, je crois que c'était peut-être mercredi dernier, Madame Lagarde a reconnu qu'on pouvait pas attendre de disposer de toutes les informations pertinentes afin d'ajouter, en agissant ainsi, nous risquerions d'ajuster notre politique trop tardivement. Ça, ce sont des propos qui veulent strictement rien dire.
Mais en fait, on ne sait pas.
C'est du pilotage.
Et c'est exactement ce que je voulais dire. C'est que si on relance la planche à billets, c'est-à-dire que c'est l'inflation qui va exploser encore plus. Si ce n'est pas le cas et qu'on essaie de suivre l'exemple de Paul Volcker en 1980, je ne dis pas 20%, hein, mais disons même la moitié ou 12 ou 13, ça serait catastrophique, cataclysmique pour les économies qui sont extrêmement endettées parce que cela va faire exploser encore la dette. Donc, est-ce que ce n'est pas le serpent qui se mord un peu la queue et qui ne sait pas comment sortir de son cercle vicieux?
Mais vous avez raison, Kamal, parce qu'en fait, le serpent ne sait pas sortir, mais c'est surtout, en fait, en réalité, vous avez des décideurs, des banques centrales qui sont totalement déconnectés et qui suivent une politique qui est la leur et qui n'a absolument rien à voir avec celle des États. Vous voyez, par exemple, je vous parlais en fait des conséquences d'un retard de la Fed sur son homologue européenne, la Banque Centrale Européenne. Là, je vous lis un texte que j'ai sous les yeux, que je viens de retrouver, c'est que logiquement, par exemple, les taux obligataires américains devraient descendre plus rapidement aux États-Unis qu'en Europe, ce qui pourrait pousser nombre d'investisseurs à vendre leurs euros pour acheter des bons du Trésor et des autres obligations américaines en dollars. C'est effectivement ce qui est en train de se passer. Et le résultat est très simple, c'est que ça fait perdre toute sa valeur, parce qu'il en reste, à la monnaie européenne. Et c'est une érosion, en fait, qui devrait, pour le moment, en fait, on nous dit qu'elle devrait rester légère, parce qu'il ne s'agit pas d'une divergence de politique monétaire, mais de juste quelques mois de différence dans le rythme de la baisse. Mais en réalité, les conséquences pour l'économie européenne, à mon avis, ne resteront pas limitées. Mmh. C'est qu'en fait, nous avons eu en pleine flambée, par exemple, du pétrole, on l'achète en dollars. La baisse de l'euro aurait, dit-on, un effet inflationniste, puisque cette ressource aurait coûté mécaniquement plus cher à cause des taux de change.
Bien. Alors, la question suivante, Renaud Bouchard. L'endettement lié à la crise de 1929, et là, j'aimerais faire un peu d'histoire et faire quelques parallèles, bien sûr, avec toute mesure gardée, comme on dit, parce que les situations ont quand même changé, mais d'un point de vue du principe. Alors, l'endettement lié à la crise de 1929 avait fait grimper la dette totale des États-Unis à 200 milliards de dollars, soit 300% du PIB en 1933. Et puis, à partir des années 80, l'endettement, aussi bien public que privé, a recommencé à augmenter à partir du plafond de 150% du PIB, notamment avec l'émergence de l'endettement du secteur financier. Et en 2023, aujourd'hui même, l'endettement total est de plus de 400% du PIB avec une dette globale de 100 000 milliards de dollars, ou un peu plus. Alors, à comparer, Renaud Bouchard, les ordres de grandeur entre les deux situations de 1929 et celles d'aujourd'hui, on peut considérer aisément que la crise de 1929 est une petite balade de parc, un petit amusement par rapport à ce qui attend le monde aujourd'hui. Alors, qu'en pensez-vous ? Et sommes-nous à la veille d'un cataclysme financier et économique aux conséquences incalculables sur tous les niveaux ?
Les comparaisons historiques entre la crise de 29 et puis celle qui est rampante, on va dire à partir de 2008 et qui celle qui comment dire qui est en train de se développer actuellement, les ordres historiques sont totalement différents. Mmh. Voilà, ils sont différents sur l'origine de la crise de 29, on la connaît. Celle actuelle aussi, on la connaît aussi. Pour celle de 29, en fait, elle s'est résolue de la manière que vous connaissez, c'est-à-dire que, mais il y a eu tout simplement, en fait, la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Ah, ouais. Donc, c'est en fait une guerre qui a terminé la crise de 29. Comment dire, des détenteurs d'or. On va connaître ça, par exemple, en Occident, là, actuellement, c'est déjà un peu le cas. On est en train, par exemple, d'envisager de ratisser l'épargne des Européens, par exemple, pour la mobiliser dans un grand plan de soutien, par exemple, à la guerre en Ukraine, hein, voilà. Enfin, ça fait partie de soutenir, en fait, mettre de l'argent, en fait, dans ce qui est, comment dire, un trou noir, un effondrement complet de toute une économie de guerre qui n'en est pas une, en réalité. Alors, faire la comparaison, je dirais oui et non. Sur les origines inflationnistes, oui, bien sûr, il y a toujours des éléments de comparaison. Je dirais peut-être c'est surtout en fait la solution elle-même qui risque d'être un peu surprenante.
C'est ça le sens de la question.
Peut-être pas guerre mondiale, parce qu'en fait. En fait, elle est déjà commencée. Déjà commencée depuis un petit moment, mais elle est commencée de manière un petit peu sporadique. Les choses ne se repassent jamais de la même manière. Alors bien sûr, il y a des conflits qui sont ouverts, des conflits ardents, des conflits qui sont chauds, mais en fait, la véritable guerre économique de réajustement est déjà totalement en place. C'est en fait, elle est là, cette guerre mondiale, et elle est en train, en fait, tout simplement de rebattre totalement les cartes. Il y a toute une structure. On a par exemple de ce qui a été au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avec Bretton Woods, par exemple, qui était la mise en place de l'hégémonie financière américaine, la première puissance économique mondiale. On est passé après, alors je vous fais le détail que vous connaissez, que vous en suivez de Washington, ces trucs-là. Voilà, on est passé après sur Bretton Woods 2. Mais c'est fini tout ça.
Ouais.
C'est fini tout ça parce que maintenant on voit arriver d'un côté des grandes masses monétaires qui sont une bulle qui n'en finit pas d'éclater, mais enfin la paroi finit par se devient tellement mince, peut-être qu'on voit vraiment plus qu'au travers. Et puis d'autre côté, vous avez des économies comme celle de la Russie, de la Chine, de tous les pays d'Asie qui eux ont derrière un sous-jacent extrêmement solide qui est l'or.
D'accord.
Non seulement ils en produisent beaucoup et ils ont endossé leur monnaie dessus.
D'accord. Maintenant, Renaud Bouchard, pour la question suivante. Alors, entre 1929 et 1935, la plupart des contrats de dette privés et publics comprenaient une clause or prévoyant un remboursement en or qui protégeait l'investisseur d'une base de la valeur du dollar. C'est ce que vous avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure sur la question de la confiscation de l'or dans le cadre du New Deal. Alors, un montant considérable de la dette, 120 milliards de dollars, soit 180% du PIB, était doté de cette clause. Et puis, nous avons le 5 juin 1933, le Congrès annule, sur demande du gouvernement, toutes les clauses hors des contrats, même passés, c'est-à-dire avec un effet rétroactif. Et le 31 janvier 1934, Roosevelt dévalue le dollar de 69% en fixant le cours de l'or à 35 dollars. Et ainsi, en annulant cette clause dollar-or avec effet rétroactif, le fardeau de la dette américaine a chuté de 69%. C'est cette décision qui a marqué le début de la reprise économique et la fin de la Grande Dépression. Alors, ma question, les événements américains de 1939 et 1935 peuvent-ils se reproduire aujourd'hui? Et en cas de nécessité, les gouvernements américains peuvent-ils restructurer et modifier les contrats pour provoquer un effondrement de la dette comme en 1933 et 1935. Et puis, dans ce scénario, est-ce que ce n'est pas in fine ce qui est recherché par les Américains, dont le but de sortir de la dette, mais avec le risque justement de provoquer une faillite de tous les pays émergents qui ont de très grandes réserves en dollars? Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est, ou c'est juste moi qui suis en train de me faire un film?
Non, cher Kamal, la question induit la réponse. En fait, c'est de la prospective qui est déjà plus qu'établie. Il faut savoir que nous avons affaire à une grande puissance économique qui, en fait, joue dans son propre camp et qui n'a que faire, en réalité, de ses autres partenaires économiques. C'était la célèbre phrase du secrétaire d'État au Trésor, hein, le dollar est notre monnaie, c'est aussi votre problème. Et bien, ils sont en train de passer sur autre chose, en fait, en réalité. Et là, actuellement, j'ai vu très récemment un article où, en fait, c'est une tendance, on est en train de... J'allais dire, nous sommes en train de passer à un autre ordre monétaire international. La fiat monnaie, par exemple, est en train de disparaître. On a entendu parler de ce qu'on appelle les CBDC, hein, les Central Bank Digital Currency. Oui. Et il n'est peut-être pas impossible, en réalité, que nous voyions une sorte de découplement, d'un abandon fait par, justement, même, je veux dire, les États-Unis eux-mêmes, de leurs dollars pour passer sur une autre base monétaire qui serait tout simplement, en fait, ce qui a été choisi, qui est le Bitcoin. Voilà.
Donc, ce qui a attiré mon attention, Renaud Bouchard, c'est le fait que actuellement le plus grand détenteur de la dette américaine, c'est finalement la Réserve fédérale. Ça me met la puce à l'oreille. Pourquoi ils le font? Et la Réserve fédérale continue à acheter. Et actuellement, par rapport à tout l'endettement, la masse monétaire qui existe, les réserves de change ou les bons du trésor qui sont détenus par les pays, ça devient une proportion très très petite. C'est pas très important. Donc, je me demande si c'est pas il n'y a pas un plan derrière.
Il ne faut pas affoler la bête. Si vous avez par exemple la Réserve fédérale qui commence à expliquer, qui fait comprendre l'idée dans toute une population, dire que tout d'un coup ce qu'ils ont actuellement en portefeuille ne vaut plus rien, c'est la chute immédiate. Non, on va faire durer encore la confiance, car tout est là en fait en réalité. C'est du papier tout ça. Hein. Mmh. C'est voilà. Mais on passe sur autre chose. On est en train de passer d'abord dans une nouvelle maîtrise des circuits financiers, une nouvelle maîtrise des agents économiques, une nouvelle maîtrise des populations. Tout le monde a besoin d'argent et en aura besoin. Mais on va passer petit à petit avec une monnaie digitale, banque centrale. Et petit à petit, je pense que nous allons avoir une sorte de glissement. On va passer sur toute autre chose. Le dollar, à mon avis, mais quelque chose qui est encore c'est un futur souvenir. Ça va encore durer, mais ça va venir une monnaie de deuxième zone. Voilà. Mais voilà. Vous avez encore un autre pays qui a encore beaucoup besoin du dollar actuellement. C'est la Chine.
La Chine, par exemple. Oui. Exactement. Voilà. Oui.
C'est-à-dire qu'il y a toute une économie là qui est un peu en refroidissement, mais qui fonctionne très bien.
Et qui a surtout plus de 3 000 milliards de réserves en dollars. Moi, je me mets à leur place. Si jamais les Américains venaient à réduire la valeur du dollar à zéro, c'est quand même pas...
Non, ce ne sera pas réduit à zéro, ça va passer sur autre chose, sur un autre sous-achat. Ça sera adossé à quelque chose d'autre. Voilà. C'est un peu comme, par exemple, ce que vous avez actuellement, le très gros acheteur d'or fantôme actuellement, c'est la Chine. Oui. Voilà, avec le yuan elle-même, le renminbi, en fait, qui est à la fois un avantage, mais qui est quand même un sérieux problème. Voilà. Mais c'est une monnaie, on en a besoin. Il y a 1,4 milliard d'habitants qui s'en servent tous les jours, à chaque instant, à chaque heure. Mais c'est une monnaie qui, de plus en plus, suscite l'intérêt de tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'elle regorge de confiance. Oui. Elle est adossée à de l'or. Comme
et
l'euro,
puis à de la production réelle. Bien. Alors, ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité Renaud Bouchard pour la seconde partie de l'émission après une courte pause musicale. À tout de suite.
L'Afrique en marche. Une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Spoutnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Renaud Bouchard, économiste à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Renaud Bouchard, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien.
Cher Kamal, chers auditeurs, bonjour.
Bien, alors Renaud Bouchard, si le scénario qu'on venait juste de décrire avant la fin de la première partie se précise et que les pays étrangers liquident toutes leurs obligations US de façon à ce que la dette américaine soit détenue à 100% par les Américains eux-mêmes, il est évident que cela sauvera l'économie américaine peut-être de la dette, mais mettra fin en même temps au statut de devise dominante internationale du dollar. Néanmoins, ce qui ici est très très important, c'est le risque. La chose qui est très importante à noter, c'est le risque énorme de voir beaucoup de pays perdre toutes leurs réserves en dollars et courir le risque d'une faillite certaine. Et ce genre de conditions, je crois que il faut pas sortir d'une grande école pour comprendre que cela, ce sont les conditions qui créent les conflits militaires que nous ne souhaitons pas et que personne ne souhaite. Alors, qu'en pensez-vous? Et ne serait-ce pas ça, peut-être, que les banques centrales sont en train de chercher, notamment la Fed, en achetant beaucoup d'or pour liquider leurs réserves en dollars?
Tout le monde achète de l'or en ce moment, bien évidemment. Parce qu'en fait, officiellement, on affiche une confiance, mais tout le monde a parfaitement compris que la fête était finie. Voilà. Donc, ça fait rêver, l'or. Hein, c'est tout à fait évident. Mais on assiste quand même actuellement encore à... Je n'en trouve pas tout à fait l'explication, sauf peut-être le gain et le profit immédiat. Là, je pense à certains pays occidentaux. Vous avez par exemple encore en avril 2024 un exemple de la dollarisation des banques européennes et suisses, par exemple, et donc de la dollarisation, par exemple, à laquelle procède la Banque Centrale Européenne ou la Banque Nationale Suisse, par exemple, ou qui... voilà. Quand le système monétaire a été changé, les banques en euros... je réfléchis là. On saisit l'aubaine des déficits américains pour développer le recyclage des dollars extérieures aux USA. Elles ont gagné énormément d'argent dans ce recyclage. Mais alors, en agissant de la sorte, elles ont peu à peu dollarisé leur bilan, elles sont devenues totalement dépendantes au dollar. Mais il suffit tout simplement que la Fed ferme le robinet et tout le monde tombe.
Absolument.
C'est ce qui pourrait effectivement se passer. Quoique, parce que vous avez de la géopolitique qui entre en jeu, les États-Unis... quelle que soit en fait en réalité la nouvelle équipe gouvernementale qui arrivera au pouvoir au mois de novembre prochain, ont encore un peu besoin de l'Europe, beaucoup d'Europe. C'est-à-dire qu'il faut l'asphyxier, mais pas trop, on en a besoin.
Ouais.
Donc, on ne va pas tout tuer, on va simplement contrôler de manière très solide, justement, les instituts monétaires ou la Banque Centrale Européenne, par exemple. Mais la Fed va aussi être obligée de se contrôler elle-même. Et puis, de l'autre côté, en face, mais tout dépend de quel côté on se met, parce qu'on est toujours en face, eh bien, vous avez d'autres pays qui, effectivement, se rendent compte que bon, le dollar est toujours utile comme instrument de paiement quotidien, mais il y a toute cette remise en place qui est en construction, qui va au-delà, par exemple, de la banque des BRICS, avec une monnaie BRICS qui va finir par arriver un jour, ça ce sera l'objet d'un autre sujet, avec justement toujours cette grande confiance de pays qui ont montré une réussite économique réelle, une réussite et une puissance militaire solide aussi, qui sont sûrs de ce qu'ils font, voilà, et qui ont justement les ressources matérielles et toujours ce fameux minerai, cet or, qui est là pour pouvoir montrer que la monnaie, quelle qu'elle soit, est solide, elle est gagée sur quelque chose, alors qu'en face, c'est du papier.
Ouais. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais bien passer à quelque chose de très important et parce que et qui c'est une question en fait que tous les auditeurs se posent dans les quatre coins du monde et c'est la question de la liaison entre la guerre et les grandes crises économiques. Alors Renaud Bouchard, selon beaucoup d'experts, la situation actuelle de l'économie mondiale ressemble à bien des égards dans sa dynamique à celle à celle des années 30 qui a déclenché par la crise boursière de 1929. Alors, dans son livre Tragédie et espoir, publié en 1966, le célèbre historien américain Carol Quigley avance le concept de l'écart déflationniste qui caractérise l'excédent d'épargne sur l'investissement, générant l'insuffisance de pouvoir d'achat dans le système économique. C'est selon la méthode choisie pour résoudre la question de l'écart déflationniste que le professeur Quigley arrive à démontrer justement le lien dans son livre entre les crises économiques et les deux guerres du XXe siècle, des deux guerres mondiales, la première 14-18 et 39-45. Alors, en effet, entre la destruction, il évoque trois méthodes. La destruction de biens, l'abaissement de l'offre de biens ou l'augmentation de l'offre de pouvoir d'achat et la production de biens qui n'entrent pas sur le marché de la consommation pour réduire l'écart déflationniste. Bien sûr, lui, il dit que la meilleure solution, normalement, consiste à, en réalité, dans des investissements publics, dans des biens d'équipements productifs qui augmentent la richesse nationale et le niveau de vie. Seulement, cette démarche est farouchement rejetée par les intérêts privés, financiers et bancaires en tête. Ainsi, à défaut, les pays occidentaux, comme dans les années 30, préfèrent augmenter les dépenses militaires, c'est-à-dire les biens qui ne rentrent pas sur le marché, pour combler l'écart déflationniste, comme dans les années 30. Alors, Renaud Bouchard, j'aimerais bien que vous preniez votre temps pour expliquer ça à nos auditeurs qui se demandent tout le temps, et à juste titre, comment on trouve facilement, avec en claquant du doigt, des centaines de milliards pour financer la guerre, alors on ne peut pas trouver 10 milliards pour sauver, par exemple, les retraites en France, pour sauver la sécurité sociale, pour donner de l'argent à l'industrie, à l'agriculture. Les agriculteurs finissent leur mois comme des smicards, au moins, alors qu'ils travaillent 70 heures par semaine. Et puis, les élites occidentales, actuellement, sont-elles en train de choisir la guerre à nouveau pour régler la crise du système capitaliste?
La réponse est oui. La guerre, ça a été toujours en fait le merveilleux recours pour pouvoir effacer l'ardoise. Et alors justement, dans toute la crise que nous connaissons actuellement, on se pose la question de savoir quels sont les mécanismes économiques, sociaux et politiques qui, à partir du moment où ils finissent par avoir tellement dérivé, sont arrivés, j'allais dire, au désastre, comment peuvent-ils se resurvivre? Eh ben, c'est tout simplement à cause de la guerre. La guerre efface tout et reconstitue totalement une économie. Et vous posiez la question tout à l'heure, comment se fait-il qu'on arrive à trouver des sommes d'argent gigantesques alors que on n'arrive pas, à répondre à des besoins immédiats, justement pour les retraites, pour les agriculteurs, ou la médecine, la santé et autres? Mais c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'argent à gagner de manière immédiate sur une nouvelle orientation économique et financière d'une économie de guerre que sur le reste. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe. Et vous avez un article très intéressant à ce sujet-là qui a été écrit par un de vos confrères qui s'appelle Sylvano Trotta, que vous trouvez justement sur les réseaux, qui vous montre quand ces 60 ou ces 90 milliards de dollars qui ont été votés par le Congrès des États-Unis, ce n'est pas un effet d'aubaine. Il va y avoir de l'argent, mais pas pour tout le monde, et certainement pas pour l'Ukraine, par exemple, sauf simplement pour le complexe militaro-industriel américain, c'est tout. Là, on va ça, trouver...
Et là, justement, je rebondis sur ce que vous voulez dire, parce que c'est très, très important. Quand on parle de 95 milliards de dollars, c'est un argent qui doit être converti en armement. C'est-à-dire, il faut le produire. On va pas imprimer les billets et les envoyer à l'Ukraine. Les soldats ukrainiens ne feront pas la guerre avec les billets de dollars. Il faut leur envoyer de l'armement. Mais l'état justement du complexe militaro-industriel, qu'il soit européen ou américain, n'est pas en capacité justement de transformer l'argent qui sera injecté en moyens militaires avec lesquels les Ukrainiens vont se battre. Il y a les coûts qui sont énormes et il n'y a pas la capacité industrielle. Donc promettre 95%, moi ayant fait une formation d'ingénieur, je comprends que c'est ça le problème de ces dirigeants. Ils croient qu'il suffit d'injecter l'argent et puis hop, à la sortie on a 10 000 chars, on a 10 000 missiles. Les choses ne se passent pas comme ça, c'est pas...
Non, elle ne se passe pas comme ça, mais voilà pourquoi il va falloir quand même retrouver, j'allais dire, des sous-jacents et du solide derrière. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes ingénieur, vous avez besoin de quelque chose, je sais pas, un laboratoire de radioisotopes, allez, je vous fais une ligne de crédit pour l'acheter. Ben, il va y avoir quelqu'un qui va le vendre, ce laboratoire.
Et qui va le fabriquer d'abord.
Va vouloir avoir autre chose qu'une promesse à la banque du coin.
Voilà. Ouais, bien sûr.
Donc, on va aller chercher l'épargne là où elle est, par exemple, ce qu'il en reste. Et puis, on va peut-être aussi aller chercher des ressources minières là où il y en a encore, en allant demander à des pays, par exemple, qui bénéficient de ressources naturelles extrêmement importantes, de bien vouloir participer, entre guillemets, à un effort de guerre. Enfin, on retrouve une économie de prédation.
Donc, en réalité, si on comprend bien cette annonce-là, parce que elle est enjolivée et elle est mise à l'intérieur d'un emballage très beau de déclarations humanitaires, d'aide à l'Ukraine, d'aide à Israël, ainsi de suite, contre les méchants qui veulent les exterminer. Mais en réalité, ça n'est que l'alibi ou le prétexte pour sauver ce qu'on peut sauver encore du système financier occidental. On sacrifie des populations sur l'autel d'intérêts financiers.
Mais je pense que malheureusement, vous avez c'est cruel, mais vous avez résumé en fait la conclusion est là. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais des armes vont quand même être fabriquées, elles vont être insérées dans un nouveau modèle de crédit pré-bail ou autre. Les sommes d'argent en fait qui vont vraiment être données à l'Ukraine ne vont pas être un cadeau pour l'Ukraine. Il va y avoir au moins un engagement de dette, de réparation, de remboursement. Je pense que ce pays sera absolument incapable de rembourser cette dette. Déjà, les pays occidentaux eux-mêmes, si vous regardez par exemple la dette en France, c'est une dette qui sera peut-être pas tout à fait éternellement roulée, parce qu'on risque de se trouver d'avoir rempli toutes les conditions pour bénéficier des conditionnalités du FMI en France, par exemple. Mmh. C'est un pays qui est en train de s'appauvrir à très très grande vitesse. Et je ne vois pas tellement comment on pourra, nous, participer dans le cadre d'une véritable économie de guerre à ce qui pourrait être, en fait, un effort économique, financier, industriel pour, contribuer à aider l'Ukraine, par exemple. Mais c'est une constatation qui est valable, par exemple, pour la Fédération de Russie. À ceci près que la Fédération de Russie est assise sur les ressources d'un continent tout entier. Mais il y a un moment donné où, là aussi, l'économie de guerre va se retrouver aussi face à un mur de dette. C'est-à-dire mais cette guerre va s'arrêter. Parce que de toute façon, la recomposition financière, industrielle, économique aura eu lieu des deux côtés.
D'accord. Bien, alors maintenant, j'aimerais bien qu'on s'intéresse un peu aux pays du Sud, et notamment aux pays africains, qui, dans cette situation vraiment invraisemblable de dette, d'endettement mondial, aussi ont leur part à l'intérieur. Alors, au milieu de la plus forte hausse des taux d'intérêt mondiaux depuis 4 décennies, les pays en développement, notamment les Africains, ont dépensé un montant record de 443,5 milliards de dollars pour assurer le service de leur dette extérieure publique et garantie publiquement en 2022, selon le dernier rapport sur la dette internationale de la Banque mondiale. Et on a les paiements du service de la dette qui donc comprennent le principal et les intérêts ont augmenté de 5% par rapport à l'année 2021 pour tous les pays en développement. On a les 75 pays éligibles pour emprunter auprès de l'Association internationale de développement de la Banque mondiale, qui soutient les pays les plus pauvres, ont payé un montant record de 88,9 milliards de dollars en frais de service de la dette en 2022. Et on a, au cours de la dernière décennie, les paiements d'intérêt par ces pays ont quadruplé pour atteindre un sommet précédent aussi de 23,6 milliards de dollars en 2022. Et le coût global, donc, du service de la dette des 24 pays les plus pauvres, dont parmi eux les pays africains, devrait augmenter en 2023 et 2024 jusqu'à 39% selon le même rapport. Alors, quand on regarde, Renaud Bouchard, tous ces chiffres astronomiques que les pays pauvres ont payés, soi-disant des dettes qui ont été contractées pour les aider à se développer, alors qu'il n'y a absolument, on voit tout, sauf le développement, avec tout ce qui a été payé comme dette ou intérêt de la dette, et ainsi de suite. Alors, l'augmentation des coûts a détourné des ressources vraiment rares, des besoins essentiels tels que la santé, l'éducation, l'eau, l'énergie, les infrastructures. Et puis, cette situation est-elle encore tenable dans le contexte actuel ? Et puis, quid de la solution de l'arrimage à la dynamique de développement des BRICS, notamment pour l'Afrique?
Non, la situation telle que la connaissons, avec cette dérive excessive, cette mobilisation du service de la dette, j'allais dire qu'il y a un moment donné, on retrouve cette qualification qui est apparue il y a pas tant une vingtaine d'années et qui, à mon avis, est parfaitement illustrée. C'est la notion de dette odieuse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous entrez entre dans les pinces d'organismes internationaux censés venir vous aider et qui en réalité vont passer sous des fourches codines, détruisent des populations, vous imposent en fait des conditions de refinancement ou de d'orientation budgétaire qui sont absolument intolérables. Ça ne s'est pas vu qu'en Afrique, hein, ou dans les pays anciennement sous-développés ou en voie de développement. Mmh. On l'a vu par exemple avec la Grèce qui a été reprise en main et qui a, il y a une vingtaine d'années a subi en fait une thérapie de choc qui l'a complètement mise par terre. Enfin, bon, évidemment, la Grèce va bien maintenant, mais...
Sans aucun état d'âme, bien que c'est un pays européen. Quand il s'agit de récupérer l'argent, ces cercles se fichent royalement.
Exactement, mais... Vous savez qu'en fait, je ne donnerai pas de nom ici, mais pourtant, il y a des gens que je connais, je vais vous dire, qui sont des gens qui devraient rendre des comptes. Mais la manière dont, par exemple, l'Allemagne a appliqué à la Grèce la méthode de redressement économique, qu'elle a utilisée pour prendre ce qui l'intéressait dans la défunte RDA, par exemple, ce sont exactement les mêmes méthodes. Mais alors, pour en revenir à l'Afrique, vous avez 54 pays africains qui, là, actuellement, évidemment, on peut dire que ça se développe pas et tout, c'est pas vrai. Il y a un réel développement africain difficile, mais qui irait beaucoup mieux si effectivement il n'y avait pas ce service de la dette ou ces sommes d'argent absolument gigantesques qui pourraient être utilement réutilisées. Arrive à y avoir, à mon avis, une grande lustration. Voilà, pour tout le monde, pour tous les organismes issus, j'allais dire, du monde occidental, mais peut-être aussi pour ceux qui sont en fait les nouveaux parrains et les nouveaux maîtres de l'Afrique, par exemple. Vous avez, par exemple, la Chine-Afrique avec le fonds souverain chinois qui s'est installé, dédié spécialement à l'Afrique. Il y a eu des constructions absolument extraordinaires en matière de travaux publics, d'infrastructures et autres. Mais ce sont quand même des pays qui sont passés d'une certaine manière jusqu'à adopter, par exemple, le yuan comme monnaie officielle. Il y a un moment donné, ça risque un peu de coincer aussi parce que les choses très précisément, le colonialisme à la mode européenne occidentale ne faisait pas dans la dentelle sur certains domaines. Mais alors là, par exemple, avec la Chine, avec les Indiens, alors là, on se pose même plus, il y a même plus d'état d'âme, hein, dans certains, voilà. Donc, ce sont des contraintes. Tout ceci, va générer des craquements qui vont se réajuster de manière solide. Et justement, avec les BRICS, on peut se poser la question de savoir, par exemple, il y a eu à un moment donné, même aussi de la part des BRICS, des conditionnalités au rabais qui ont été annoncées, au point que, par exemple, que des pays qui ont cru qu'ils allaient trouver avec justement cette nouvelle épiphanie, ces nouveaux alliés, hein, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, surtout l'Afrique du Sud, ils allaient pouvoir trouver de nouveaux alliés. On s'est rendu compte très vite que, qu'il pouvait y avoir au fil des dérives. D'où le modèle de partenariat envisagé entre le continent africain et les BRICS, par exemple, qui actuellement, c'est très positif. Et ça donne beaucoup d'espoir parce que c'est la réalité, est en train de s'orienter vers trois domaines spécifiques qui sont le commerce, les investissements directs étrangers, mais l'aide au développement, mais de manière différente de ce que l'on connaissait jusqu'à présent. Parce que c'est pas moi qui le dis, ça c'est un article de Jean-William Guadigui, qui est un professeur qui a été, j'essaie de regarder où est-ce qu'il a été professeur, en fait. Enfin bon, il a enseigné en France. Il explique qu'en fait, d'économie du développement, l'Afrique a assez d'expérience pour pas répéter les erreurs du passé. Voilà. C'est-à-dire, ça fait 50 ans maintenant que les États africains sont, vaccinés en matière de développement économique et de coopération. Et la coopération avec les BRICS, si les domaines prioritaires sont bien identifiés et ciblés, peut, à mon avis, renforcer la croissance, créer des emplois et accélérer des développements du continent. Et c'est ce qu'elle fait. Et quand vous voyez, par exemple, un rapport qui a été fait par, il date un petit peu là, mais en fait, il a été réactualisé, c'est le rapport de la Commission économique pour l'Afrique, il date de 2013. C'est la coopération entre les BRICS et l'Afrique. Conséquence sur la croissance, l'emploi et la transformation structurelle en Afrique. Ça a été publié, je crois, à la suite d'un congrès qui a eu lieu en Éthiopie, à Addis Abeba. Eh bien, en fait, on a identifié, dans le cadre du nouveau partenariat africain avec les BRICS, de réelles perspectives de gains pour le continent, notamment, par exemple, dans le domaine du commerce, de la transformation des matières premières et peut-être... Très probablement, je pense que c'est en train de se construire dans les flux et les paiements intranationaux au continent.
Oui.
Le franc CFA n'en finit plus de mourir, par exemple, mais il va se recomposer d'une autre manière. Voilà. Et il se recompose d'une autre manière. Comment? Par exemple, avec les paiements électroniques, avec le Naira au Nigeria, par exemple. Je dirais, on est très loin du franc CFA, hein. Mais ce sont, les populations africaines se sont appropriées de nouveaux moyens de paiement extrêmement modernes. L'argent circule très vite et en quantité extrêmement importante. Vous avez, par exemple, la nouvelle réaffectation de ce qui constitue, en fait, un véritable système bancaire africain, qui est celui des tontines, par exemple. Ce sont des centaines de millions, j'utilise encore l'expression, de dollars, mais qui existent et qui sont réinvestis dans tout, dans des micro-investissements. Ça peut aller, par exemple, chez le coiffeur du coin, comme chez le garagiste et tout, mais ça peut aussi aller dans la boutique qui va faire des applications d'électronique en téléphonie, par exemple. Voilà. Et là, on est passé sur un saut qualitatif technologique extrêmement important. Et ça génère réellement du profit. Et alors, justement, en ce qui concerne, en fait, dans un autre domaine, par exemple, le commerce, la transformation des matières premières, par exemple, là, on passe sur un autre développement économique avec une assise qui est beaucoup plus large et qui sont tirés par des échanges culturels, sociaux, scientifiques et technologiques indirects avec des investissements directs étrangers. Vous savez quel est actuellement le plus gros investisseur en Afrique subsaharienne?
Oui.
C'est le Maroc. Et dans tous les domaines. Et ça, c'est assez extraordinaire. Oui. Alors, ce sont des réalités. Et moi, je pense, en fait, qu'on arrive maintenant à un véritable développement qui est réel et qui va donner lieu à une diffusion beaucoup plus rapide d'idées productives, une nouvelle innovation, l'adoption de nouvelles technologies et, je pense, une absorption beaucoup plus efficace des connaissances et qui sont, en fait, un facteur de base de création des richesses. des nations, des pays qui savent lire, écrire et compter, ont fait le saut qualitatif qui leur permet Absolument. De passer à toute autre chose après.
Mais en tout cas, je suis très content que vous ayez évoqué cette question, notamment à la fin, parce qu'en réalité, il y a quand même un problème quand on fait un peu de l'histoire de l'économie. On se rend compte qu'en réalité, quand on regarde le développement, notamment des idées qui ont créé des révolutions dans l'économie, on se rend compte qu'en réalité, l'économie, c'est la créativité humaine, c'est la capacité à transformer l'univers, c'est la formation, l'art, la poésie, la philosophie, le développement des capacités créatrices des gens. C'est ça, l'économie, ce n'est pas la monnaie. La monnaie n'a pas de valeur intrinsèque. Elle a une valeur quand il y a des gens à côté et un système culturel, éducatif, et qui produit des gens capables de transformer et de dominer l'univers sans le détruire.
Oui, mais vous rejoignez ce que disait le grand humaniste Jean Bodin, hein, il n'y a de richesse que d'hommes. Et moi, j'aimerais encore citer en fait cet universitaire africain, je ne sais plus du tout de quelle nationalité il est, il s'appelle James William Gbagidi. Excusez-moi, j'ai mon langue à fourcher. Il faudrait que tous vos auditeurs gardent cette phrase en tête. Il sera nécessaire pour les pays africains de ne pas se laisser enfermer dans le rôle exclusif de fournisseurs de matières premières pour les BRICS, mais surtout d'élaborer des politiques communes mutuellement bénéfiques afin d'accélérer le développement du continent. Car c'est dans les stratégies individualistes du chacun pour soi que se cachent les causes des échecs de nombre de partenariats antérieurs entre l'Afrique et le reste du monde. Alors ça, c'est un signal aussi qui est donné. Vous savez, quand il y a eu la grande réunion familiale ou quand tous les pays africains ou les dirigeants ont été accueillis à Sotchi, par exemple, j'ai lu pas mal de choses sur cette conférence. J'ai eu la chance de mettre la main sur des textes en russe qui étaient en fait non pas tout à fait des verbatim, mais des comptes rendus. Ça s'est peut-être pas passé exactement comme le prévoyait la puissance invitante, hein. Ils ont reçu leurs amis africains, mais des amis africains qui avaient déjà eu d'autres expériences. Alors évidemment, on retrouve la Russie, qui est un vieux client, qui a été déjà sur place, hein, en Afrique de l'Ouest, au Mali, et puis qui là l'est actuellement. Mais il va falloir penser peut-être à autre chose, redéfinir des rapports. Alors malheureusement, les rapports, pour le moment, ça risque d'être des rapports, j'allais dire, peut-être encore un petit peu militaires, d'une certaine manière. Et ça, c'est un peu dangereux, parce que c'est tout simplement ce qui est à l'ordre du jour en ce moment. En fait, on est avec des conflits. Et peut-être avez-vous lu ce qui est sorti dans la dernière publication du programme Revue Internationale en russe. Il s'agit de Monsieur Fyodor Loukianov et de Monsieur Nikolai Silaïev. Ils sont tous les deux chercheurs à l'Institut d'études internationales du MGIMO, du ministère russe des Affaires étrangères. Et dans le cadre du programme Revue Internationale, on leur posait la question de savoir s'il existait encore une sorte d'ordre mondial en vigueur à l'heure actuelle, ou est-ce que nous étions pas plutôt enfin arrivés à une bienheureuse anarchie. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que d'un point de vue structurel, nous sommes dans une guerre mondiale qui est causée, je les cite, par la fatalité historique des transferts d'hégémonie. Voilà. D'accord. Et nous y sommes. Nous y sommes, en fait, dans toute cette restructuration qui prend en compte les points topiques développés par le sujet d'aujourd'hui, avec les réajustements monétaires, les questions inflationnistes, la pérennité d'une monnaie par rapport à une autre, les redistributions entre pouvoirs. Voilà. J'invite les lecteurs à aller regarder, justement, c'est traduit dans toutes les langues, hein, le programme Revue Internationale, dans lequel ils trouveront un utile complément à ce que développe RT aujourd'hui, fort heureusement, avec votre émission, cher Kamal.
Merci beaucoup. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Renaud Bouchard, je vous remercie encore une fois pour tous ces éclairages et ces analyses. J'espère que nous avons réussi à éclairer cette question cruciale de la crise mondiale multidimensionnelle, ses enjeux et ses effets négatifs, surtout sur la paix dans le monde. Et puis, j'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était Renaud Bouchard, économiste à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt dans une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.